de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très ravi de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, le commentaire et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien, et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. L'ambassade d'Arabie Saoudite célèbre la journée mondiale de la langue arabe au Lipia, Jakarta. L'Indonésie et le Japon s'accordent sur le renforcement de la sécurité alimentaire et de la transformation numérique. Le président Joko Widodo a présenté les lignes directrices de l'ASEC pour faire face au changement climatique. Chers amis, nous présentons maintenant le journal en complet. L'ambassade d'Arabie Saoudite à Jakarta commémore la Journée mondiale de la langue arabe au campus de l'Institut des sciences islamiques et arabes où Lipia à Kemang au sud de Jakarta. La célébration a eu pour thème la langue arabe, la langue de la poésie et de l'art. L'événement a réuni des ambassadeurs des pays arabes, de l'Association des professeurs indonésiens de la langue arabe et des délégués de UIN Syarif Hidayatullah Jakarta et UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. L'événement a été agrémenté de lectures de poésie, de poèmes et de jeux de rôle arabe mis en scène par la communauté académique de l'Institut des sciences islamiques et arabes. L'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Indonésie, M. Faisal Abdullah Al-Amoudi, a déclaré dans son discours d'ouverture que l'arabe était entré en Indonésie depuis le 7e siècle et que l'arabe était une identité musulmane. Nous sommes réunis aujourd'hui pour commémorer la Journée mondiale de la langue arabe en République d'Indonésie à Jakarta. Cette célébration reflète le soutien du gouvernement saoudien à la langue arabe. Comme on le sait, l'arabe a commencé à entrer en Indonésie au 7e siècle, ce qui signifie qu'il existe depuis 14 siècles. L'attention à la langue arabe a été portée par les fondateurs du Royaume d'Arabie Saoudite, le roi Abdul Aziz, puis par les rois gardiens des deux villes saintes, qui ont ensuite diffusé la langue arabe dans diverses parties du monde. Cette attention est effectuée par la création de diverses institutions spéciales. La Journée mondiale de la langue arabe est célébrée chaque 18 décembre. À cette date, en 1973, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté l'arabe comme sixième langue officielle de l'Organisation des Nations Unies. Selon le site internet de l'ONU, l'arabe est l'une des langues les plus parlées dans le monde, utilisée chaque jour par plus de 400 millions de personnes. Le soutien du gouvernement saoudien au développement de l'arabe en Indonésie s'est fait à travers le développement de l'IPIA il y a 40 ans. L'institution, qui est une branche de l'université Imam Muhammad bin Saud, possède 4 campus à Jakarta, Aceh, Medan et Surabaya et a formé 21 000 diplômés depuis sa création. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le président indonésien Joko Widodo et le premier ministre japonais Fumio Kishida ont convenu d'une coopération pour renforcer la sécurité alimentaire et la transformation numérique lors du sommet du 50e anniversaire du partenariat ASEAN-Japon. La série de conférences de haut niveau a eu lieu à Tokyo, le Japon, pendant 2 jours, du 17 au 18 décembre 2023. Le président Joko Widodo a déclaré lundi dans une déclaration officielle à Jakarta sur le renforcement de la sécurité alimentaire et énergétique. La coopération est renforcée par l'augmentation de la productivité de la chaîne d'approvisionnement alimentaire grâce au développement technologique et à la disponibilité des engrais. Les deux pays se sont également mis d'accord sur l'harmonisation des normes relatives aux produits agricoles. Puis, dans le secteur de l'énergie, le Japon est un partenaire important de l'ASEAN pour aider à accélérer la transition énergétique vers des énergies nouvelles et renouvelables qui sont équitables, inclusives et abordables. Le président Joko Widodo a ajouté « La coopération ASEAN-Japon peut viser à encourager l'investissement et le transfert de technologies à faible émission de carbone, y compris pour le développement de super réseaux verts de l'ASEAN et l'utilisation de l'économie du carbone. » Le président Joko Widodo a déclaré la stratégie de transition énergétique de l'Indonésie et son programme de financement basé sur les directives de la communauté asiatique zéro émission ou ASEC. Cela a été transmis par le président Joko Widodo lors de sa participation au sommet de la communauté asiatique zéro émission à Tokyo, Japon, lundi. Selon le président, chaque pays a une stratégie de transition énergétique unique et différente parce qu'elle est préparée conformément aux conditions nationales. L'Indonésie a la voie indonésienne d'une transition énergétique juste à travers le développement de nouvelles énergies renouvelables et le renforcement des efforts de décarbonation. Le président a ajouté l'Indonésie en tant que troisième plus grand pays forestier tropical dans le monde a fait des choses liées à la transition énergétique. Entre autres, la réduction des émissions en réduisant le taux de déforestation et de dégradation des forêts et en développant le potentiel de mangroves pour absorber le carbone. Il espère la coopération de l'ASEC en matière de décarbonation et financement inclusif. L'objectif est de développer divers projets de captage et le stockage de carbone et captage l'utilisation et stockage de carbone. Les Nations Unies, par l'intermédiaire de la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie et le Pacifique, ont visité la capitale de l'archipel, ou IKN, pour examiner l'alignement du développement de la nouvelle capitale avec la vision du développement durable. Bambang Susantono, dans sa déclaration à Jakarta lundi 18 décembre, a déclaré que l'autorité IKN était très préoccupée par la mise en œuvre des objectifs de développement durable dans le développement de IKN. La directrice de la CESAP, Madame Armida Alishabana, a déclaré que le processus de développement mené par les ministères et institutions concernées en Indonésie pour la construction des IKN était conforme aux principes et tendances mondiaux actuels de développement des villes modernes. Pendant ce temps, le personnel spécial pour le développement durable de l'autorité IKN, Mme Diani Sadiawati, a déclaré qu'actuellement, l'autorité IKN a construit divers projets qui adhèrent aux principes des objectifs de développement durable. Elle a également déclaré que le plan révolutionnaire de la troisième phase de IKN serait davantage lié au projet de durabilité ou au projet vert. Le Conseil de sécurité de l'ONU voterait sur un projet de résolution exigeant d'autoriser l'acheminement de l'aide à la bande de Gaza par voie terrestre, maritime et aérienne. Le processus de vote devrait avoir lieu au plus tôt lundi 18 décembre 2023, heure de New York, les États-Unis. Un certain nombre de diplomates ont déclaré que la sorte de projet de résolution du Conseil de sécurité dépendait des négociations finales. Les responsables de l'ONU et les agences humanitaires ont mis en garde contre le risque d'une catastrophe humanitaire à Gaza, notamment une famine massive et la propagation de maladies. Selon l'ONU, environ 1,9 million de personnes, soit 85% de la population de Gaza, ont été déplacées. Certains d'entre eux ont même perdu leur abri à plusieurs reprises. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici le commentaire intitulé « Visite sans visa dans le cadre des efforts du gouvernement pour créer un tourisme de qualité ». Le secteur du tourisme est l'un des piliers de l'économie indonésienne et un important contributeur d'un déficit. L'Agence centrale de statistiques a enregistré que les visites de touristes étrangers de janvier jusqu'à septembre 2023, ont augmenté de 143,41% par rapport à la même période de 2022. Le ministère du Tourisme et de l'Économie créative prévoit également que les visites touristiques étrangères jusqu'à la fin de cette année atteindront environ 9 millions de visites. L'augmentation des visites touristiques étrangères en Indonésie est entendue non seulement en termes de quantité, mais aussi de qualité. Lors de l'événement à Jakarta lundi 18 décembre, le ministre du Tourisme et de l'Économie créative, M. Sandiaga Salahuddin Uno, a soumis une proposition permettant à 20 pays d'obtenir un visa de visite gratuite en Indonésie dans le but de créer un tourisme de qualité. Il estime que les visites sans visa détermineront les visites touristiques en 2024. C'est pourquoi son parti cible systématiquement les touristes de qualité et durable. Plusieurs pays apportent des touristes de qualité. Le ministre Sandiaga Uno a également expliqué que plusieurs facteurs étaient pris en compte par les pays proposés pour bénéficier de visites sans visa en Indonésie. Ces facteurs comprennent le principe de réciprocité, l'impact économique, les aspects de sécurité, le revenu par habitant, la durée et les dépenses moyennes des touristes étrangers au cours de leur visite, ainsi que le nombre de touristes sortants. Cela veut dire qu'ils voyagent en dehors de leur pays d'origine. Les pays proposés sont l'Australie, la Chine, l'Inde, la Corée du Sud, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, les Pays-Bas, le Japon, la Russie, Taïwan, la Nouvelle-Zélande, l'Italie et l'Espagne. Même si la proposition d'exemption de visa est actuellement encore en phase de discussion avec les ministères et institutions concernées, on espère que cette subvention sans visa pourra augmenter le nombre de touristes étrangers en Indonésie, qui devrait atteindre 12,5 millions jusqu'à 14 millions l'année prochaine. Il est prévu que cette proposition soit finalisée fin 2023 ou début 2024. Pour saluer la politique d'exemption de visa, il y a bien sûr des conséquences qui doivent être appliquées par le gouvernement indonésien, les acteurs du secteur du tourisme et bien sûr le peuple indonésien, à savoir l'amélioration des services aux touristes. La politique d'exemption de visa pourrait avoir un grand impact positif sur le tourisme indonésien. Cela pourrait augmenter le nombre de touristes étrangers visitant l'Indonésie, parce que cela faciliterait l'entrée de ceux qui devaient auparavant passer par une procédure de visa compliquée. Ainsi, cela aura un impact économique qui pourra améliorer le bien-être de la société, augmenter les revenus de l'État provenant du secteur touristique, créer de nouveaux emplois et faire progresser l'économie locale dans diverses destinations touristiques du pays. Chers amis, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 19 décembre. On commence par la commémoration de la journée de Trikora. Le 19 décembre est célébré comme la journée de Trikora. La journée de Trikora est célébrée pour commémorer l'incident de Trikomando Rakyat le 19 décembre 1961. Cet ordre a été transmis par le président Sukarno lors d'une réunion géante à Yogyakarta le 19 décembre 1961. Trikora consiste en 1. Échec de la formation de l'État fantoche néerlandais de Papouasie, 2. Soulever les Rouges et le Blanc en Irlande de l'Ouest, la patrie de l'Indonésie, et 3. Préparer à une mobilisation générale pour défendre l'indépendance et l'unité de la patrie et de la nation. Le 19 décembre 1949, l'Université Gajah Mada a été fondée. Basée sur le règlement gouvernemental numéro 23 de 1949 concernant la réglementation sur la fusion des collèges en université, le gouvernement de la République d'Indonésie a créé l'Université Gajah Mada, qui a été la première université fondée par le gouvernement de la République d'Indonésie après l'indépendance de l'Indonésie. Le 19 décembre 1949, UGM a été créé à Bulak Sumur, Yogyakarta, avec 6 facultés. Les 6 facultés sont la faculté d'ingénierie, la faculté de médecine, la faculté d'agriculture, la faculté de médecine vétérinaire, la faculté de droit et la faculté de lettres et de philosophie. La commémoration de la Journée de la Défense Nationale. La Journée de la Défense Nationale est célébrée chaque année le 19 décembre. Cette journée a été instituée par le président Susilo Bambang Yudhoyono par le décret présidentiel numéro 28 de 2006 du 18 décembre 2006. La commémoration de la Journée de la Défense Nationale devrait encourager un esprit national dans la défense du pays afin de maintenir une vie nationale et étatique qui défend l'unité et l'intégrité. La commémoration de la Journée de la Défense Nationale a été motivée par l'événement historique du 19 décembre 1948, l'attaque militaire néerlandaise connue sous le nom de deuxième agression militaire. Voilà l'histoire d'aujourd'hui.
Senyum lagi, amboi nona manis sekali. Hey dia tengok kita, hey dia jeling mata. Aduh mas senyum lagi, amboi nona manis sekali. Dia mengernyit, amboi ma aku dicubit. Siapa dia, oh putri remaja. Hey dia malu-malu, di balik selendang yang biru. Hey dia senyum padaku, la gadis impianku. Peru peru di pepe peru 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 di pepe peru 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 di pepe peru 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 di pepe peru. Ah yeah. Jeling mata, aduh mas senyum lagi, amboi nona manis sekali. Hey dia tengok kita, hey dia jeling mata, aduh mas senyum lagi, amboi nona manis sekali. Dia mengernyit, amboi ma aku dicubit. Siapa dia, oh putri remaja. Hey dia malu-malu, di balik selendang yang biru. Dia senyum padaku, itulah gadis impianku. Peru peru di pepe peru, peru peru di pepe peru, peru peru di pepe peru, peru peru di pepe peru.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de Mon Indonésie intitulée « Négociation du protocole d'amendement de l'IJEPA terminé et mesures visant à accroître le commerce entre l'Indonésie et le Japon ». Vous êtes avec moi, Audrey. Ce jeudi tard, les équipes de négociations indonésiennes et japonaises ont réussi à achever le fond des négociations sur le protocole d'amendement à l'accord de partenariat économique Indonésie-Japon, IGPA. Cela a été marqué par une déclaration conjointe du ministre du Commerce de la République d'Indonésie, Zulkifli Hasan, et du ministre des Affaires étrangères du Japon, Kamikawa Yoko, samedi dernier, 16 décembre. L'annonce de cette déclaration commune marquait l'ouverture d'une réunion bilatérale entre le président Joko Widodo et le premier ministre japonais Fumio Kishida, samedi 16 décembre. Cette réunion a eu lieu en marge de la visite du président à Tokyo au Japon le même jour pour assister à la conférence de haut niveau au sommet commémorant le 50e anniversaire de l'amitié et de la coopération ASEAN-Japon. Cité samedi sur le site officiel du ministère du Commerce de la République d'Indonésie, le ministre du Commerce Zulkifli Hasan a expliqué que l'IGPA avait suivi un processus d'examen général pour examiner les avantages de la mise en œuvre et identifier les opportunités d'amélioration. L'Indonésie et le Japon ont ensuite donné suite aux résultats de l'examen en négociant le protocole d'amendement de l'IGPA comme base juridique pour améliorer l'accord afin qu'il puisse apporter davantage aux deux pays. Les négociations sur le protocole d'amendement de l'IGPA ont débuté en 2019 et font suite aux résultats de l'examen général de l'IGPA. Les changements inclus dans le protocole concernent le commerce des marchandises, le commerce des services, le commerce électronique, la circulation des personnes physiques, la propriété intellectuelle et l'achat de biens et de services pour le gouvernement. Le ministre Zulkifli Hasan a déclaré que le Japon ouvrirait et améliorerait l'accès au marché pour 112 postes tarifaires qui n'étaient pas prévus auparavant, dont 4 postes tarifaires pour les produits de la pêche transformée qui auraient une compétitivité similaire à celle des principaux concurrents de la région. Il espère que cet accès pourra être utilisé pour les acteurs économiques indonésiens pour commercialiser leurs produits au Japon et augmenter la valeur des exportations indonésiennes, non pétrolières et gazières. Le ministre Zulkifli a ajouté que l'accord du Japon visant à élargir l'accès au marché du travail et l'engagement en faveur du renforcement des capacités dans un certain nombre de domaines de coopération économique, comme indiqué dans le protocole, devrait renforcer davantage le partenariat mutuellement bénéfique entre l'Indonésie et le Japon. Les deux pays ont convenu de discuter de la facilitation du placement des travailleurs indonésiens qualifiés dans d'autres domaines professionnels, ne se limitant pas aux professions d'infirmière et d'aide-soignant. L'Indonésie et le Japon ont également convenu d'accélérer le processus de nettoyage juridique et les procédures nationales de chaque pays, afin que le protocole d'amendement de l'IGPA puisse être immédiatement ratifié et mis en œuvre efficacement. Le ministre Hasan a déclaré que les deux pays visent la signature de ce protocole au début de 2024 afin que le processus de ratification et de mise en œuvre puisse se poursuivre le plus rapidement possible. Le commerce total entre l'Indonésie et le Japon de janvier à octobre 2023 s'est élevé à 31,4 milliards de dollars américains, soit environ 488 000 milliards de roupies. Tout au long de cette période, l'Indonésie a enregistré un excédent commercial de 3,5 milliards de dollars américains, soit environ 54 400 milliards de roupies. Jusqu'en 2022, le Japon a enclassé troisième pays de destination des exportations et importations indonésiennes. Les principaux produits d'exportation de l'Indonésie vers le Japon sont le charbon, le minerai de cuivre, le gaz naturel et le nickel. Dans le même temps, les principaux produits importés par l'Indonésie en provenance du Japon comprennent les composants automobiles, le fer et l'acier et les véhicules automobiles. Bon chargeur et tard, c'est tout. Bon Indonésie. De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français. Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici le magazine culturel. Cette fois, nous allons vous présenter la visite de vieilles villes indonésiennes. Le quartier de la vieille ville est une destination touristique intéressante à visiter. Cette zone est répartie dans diverses régions d'Indonésie. En fait, chaque vieille ville possède ses propres bâtiments uniques et son patrimoine historique et culturel. Nous vous recommandons des destinations dans la vieille ville, entre autres la vieille ville de Semarang. La vieille ville de Semarang est une zone de patrimoine culturel qui contient de nombreux bâtiments hérités des Indes néerlandaises il y a des centaines d'années. L'église de Bleduc est l'une des icônes de la vieille ville de Semarang, qui est presque toujours la cible des touristes. Ce bâtiment religieux possède un toit caractéristique en forme de dôme hémisphérique. On dit que l'église de Bleduc existe depuis plus de 250 ans et qu'elle a été construite par les Portugais en 1753. L'autre vieille ville se trouve à Jakarta, à savoir la vieille ville de Jakarta. Cet endroit est l'une des icônes touristiques de Jakarta qui regorge de valeurs historiques du gouvernement colonial. Cela se voit dans les nombreux bâtiments du patrimoine historique qui sont encore bien conservés, tels que le musée Fathahillah, le musée de la Banque d'Indonésie et le pont Kota Intan. Il existe des activités que les amis de Paragraph peuvent faire dans le quartier de la vieille ville de Jakarta, telles que de faire du vélo ontel jadul, l'alimentation des oiseaux et des visites culinaires. Une autre visite de la vieille ville d'Indonésie qui n'est pas moins intéressante est la ville de Singkawang. Des vestiges archéologiques de Singkawang sont riches en culture chinoise, comme la plus ancienne maison chinoise construite depuis 1901 et la statue du dragon au milieu de la ville. Vous pouvez également voir la grande mosquée Singkawang qui est adjacente au Vihara Tridharma Bumi Raya. Chers amis, c'était magazine culturel de la voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Meski rindu kian mencari.
Serge Ritard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson? Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'indonésien. Bonne écoute. Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous présente des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, c'est la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonesia, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue, de la recherche et de la technologie du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec moi, Audrey. Le sujet d'aujourd'hui est Wah, rasanya unik. Wah, rasanya unik. En français, waouh, le goût est unique. Bonne écoute. Chers amis, ensuite, je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien intitulé Wah, rasanya unik. Wah, rasanya unik. Waouh, le goût est unique. Cette conversation se déroule entre Chris George Robinson, un vlogueur australien, et Sortauli, une amie de la communauté vlog de Chris. Chris a exprimé sa surprise et son admiration pour le goût de la soupe silongkang, une spécialité Sawah Lunto. Bonne écoute.
Sudah pernah makan sup daging sapi kan?
Tentu saja.
Ini sup silongkang, sup daging sapi khas Sawah Lunto.
Wah, rasanya unik. Beda dengan sup daging lain.
Chers amis, après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui intitulé Wah, rasanya unik. Wah, rasanya unik. En français, waouh, le goût est unique. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot, chaque phrase deux fois, et puis vous pouvez me répéter. Wah, wah. En français, waouh. Rasanya, rasanya, le goût. Unique, unique, unique. Wah, rasanya unique. Wah, rasanya unique. Waouh, le goût est unique. Soupe daging sapi. Soupe daging sapi. La soupe de bœuf. Khas. Khas. Typique. Beda. Beda. Différent. Tentu saja. Tentu saja. Bien sûr. Chers amis, outre la soupe silongkang, la province de Sumatra occidentale propose de nombreux plats délicieux, dont le rendang qui a été désigné comme patrimoine culturel immatériel indonésien en 2013. Le rendang également connu sous le nom de rendang. Rendang, rendang, est un plat de viande cuit avec des épices et du lait de coco. Chers amis, avant de terminer, apprendre l'indonésien pour comprendre mieux, écoutons encore une fois la conversation. Bonne écoute.
Sudah pernah makan sup daging sapi kan?
Tentu saja.
Ini sup silongkang, sup daging sapi khas Sawah Lunto.
Wah, rasanya unik. Beda dengan sup daging lain.
Bon, chers auditeurs, voilà l'édition d'Apprendre l'indonésien pour cette fois. J'espère que cette édition pourrait être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être fidèle avec nous. Au revoir. C'était la quatrième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 33,5 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bon, écoute.
Bonsoir à tous, voici le magazine musical. Dans cette édition, je vous donne une chanson malaise intitulée Ketapang Tanah Kayong, chantée par Amouch featuring Rosmala. La chanson Ketapang Tanah Kayong a été composée par Amouch. Tanah Kayong est le nom de la région traditionnelle qui comprend la région de Ketapang et la région de Kayong du nord, les deux districts les plus au sud du Kalimantan de l'ouest. Ketapang Tanah Kayong raconte le district de Ketapang. Les paroles racontent que Ketapang est l'un des districts les plus anciens de la province du Kalimantan de l'Ouest avec 20 sous-districts. On dit aussi que la ville de Ketapang est riche en art et en culture, que les gens sont sans fatigue et qu'ils proposent une cuisine spéciale appelée Ale-Ale. Le Ale-Ale est préparé à partir des crustacés qui sont transformés en différents types de plats. Comme la sauce chili, les sautés, le surundeng, la sauce épaisse, le céleri gris, le satay et autres. Bon, chers auditeurs, voici Ketapang Tanah Kayong de Amuk Eros Mala. Bonne écoute.
C'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, La voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @boyindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook The Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.